Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Ce sont les légendes que l'on a tous entendues.
C'est des gangs qui roulent de nuit tout phare éteint, et quand un conducteur leur fait des appels de phare pour les prévenir, ils les flinguent.
C'est ce que nous appelons une légende urbaine.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray DVD en matière de cinéma fantastique et horrifique, avec une foultitude de films édités par Elephant Film, entre autres, à savoir La Cité Pétrifiée de John Sherwood, Alerte la Nuit de Lloyd Corrigan, L'Échappée de la Chaise Électrique de George Wagner, Le Rayon Invisible de Lambert Hillier, Shockwaves, Le Commando des Morts-Vivants de Ken Wiederhorn, L'Enterré Vif de Jack Smith, Massacre au Dortoir de Stephen Carpenter et Jeffrey Obrow, Le Vampire à Soif, ainsi que La Maison Ensorcelée, deux films de Vernon Sewell. Ça, c'est chez ESC Éditions pour les deux derniers titres. Toujours chez ESC, on parlera de Urban Legend de Jamie Blanks et d'un autre film sur les légendes urbaines, Candyman de Bernard Rose, le classique. Et puis, on terminera avec un film sorti chez Rimini, Les Traqués de l'an 2000 de Brian Trenchard-Smith. L'équipe de Culture Prohibée remercie Yona Kratz, Sandrine Hiver, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer fantastique et horreur, je suis accompagné de mes deux trublions préférés, à savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est rédacteur en chef. Il est également rédacteur en chef de l'émission À l'écoute du cinéma, émission radiophonique diffusée sur RCA. Bonjour Thomas.
Salut GG, salut Damien et bien évidemment salut à toutes.
Je vais débuter cette émission avec une série de films de la Universal. Alors c'est pas les grands classiques, mais ils sont considérés comme appartenant au cycle de la Universal. Alors ça s'étend de les années 30 aux années 50. Alors film accompagné de petits livrets très riches en iconographie et dont les textes sont signés Alain Petit. Et on retrouve dans cette petite série de quatre films, tout d'abord Le Rayon Invisible de Lambert Hillier de 1936, qui est un film alors qui a la particularité, oui, il y a une belle distribution, mais il y a surtout Boris Karloff et Bela Lugosi dans le même film. Voilà, donc ça c'est toujours un événement pour les amateurs de fantastique et d'épouvante à l'ancienne. Alors on est dans l'âge d'or, hein, on est dans les années 30 hein, de la Universal. Un film assez méconnu et un très bon film hein, qui raconte l'histoire du docteur Rook qui est interprété par Boris Karloff hein, qui a retrouvé une météorite tombée il y a 225 millions d'années et qui va être contaminé en fait par cette météorite mais qui va posséder lui le radium X qui peut détruire ou guérir pouvant tuer au simple toucher, lui, il s'enfuit, le docteur Rook. Et sa jeune épouse et ses collègues vont, si vous voulez, un peu l'oublier. Et alors que lui, bon, bah, c'est un... Voilà, au départ, c'est plutôt un scientifique sympathique et qui veut utiliser sa découverte pour soigner, entre autres, la cécité de sa maman. Ses collègues vont un peu l'oublier. Hein, voilà, il va un peu disparaître. Et lui, il va décider de se venger. Hein, voilà, ce savant qui brille, hein, qui a les mains qui brillent, qui, au simple toucher, voilà, peut vous tuer, et ben, ça va devenir le méchant. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce film... qui esthétiquement porte en lui encore le fait qu'on est encore dans l'âge d'or. Les films sont un peu plus fastueux pour des séries B. Il y a une expédition à un moment. Il y a pas mal de choses qui se passent. Esthétiquement, c'est assez beau. C'est un très beau noir et blanc. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que on voit en fait que le personnage de Boris Karloff, n'est pas si ça. Enfin, il choisit la vengeance, mais contre des gens qui lui en veulent pas forcément. Enfin, voilà, le personnage du Bela Lugosi, par exemple, qui en plus est un personnage assez sobre pour une fois chez Bela Lugosi, devient un bienfaiteur de l'humanité. Il va utiliser la découverte de Ruk pour justement sauver des gens, les soigner. Donc c'est plutôt un homme bon. Et puis pour se venger, Karloff va se faire passer pour mort. Mais donc sa femme va se remarier avec un autre homme et il va lui en vouloir pour ça. Alors on a un peu du mal à comprendre parce que bon, tu t'es fait passer pour mort, mon gars. Et en fin de compte, on est sur un film avec une atmosphère qui démarre un peu de manière très classique, très gothique, dans un château, dans les montagnes. Après, on va en Afrique pour donc cette expédition. Et puis après, on termine la dernière partie du film en France, enfin dans des décors évidemment. Hein. Mais donc ça donne un film assez bigarré, assez enlevé. Et puis Boris Karloff est très bon en scientifique vengeur, voilà, qui scientifique presque électrique. Boris Karloff, on le retrouve en 1937 dans Alerte la nuit de Lloyd Corrigan. Lui, c'est la star du film. Hein. Et en fait, ce personnage de Boris Karloff, c'est quelqu'un qui vit dans la misère et qui a mis au point un système d'alarme qui a rendu riche une compagnie qui lui a acheté une misère et qui l'a arnaqué, en fait. Et lui, décide de se venger. Alors, il a fait un nouveau système d'alarme et il pense pouvoir vendre le brevet à ce gars. Et en fait... il se fait encore arnaquer. Alors qu'il pense qu'il allait être riche, qu'il allait pouvoir couvrir de cadeaux sa fille et tout ça, il va être arnaqué par ce gars et il va très mal le prendre. Il va décider de se venger et donc il va utiliser ce nouveau système d'alarme et il va aussi pouvoir, parce que lui, il a toutes les clés pour déjouer les systèmes d'alarme existants de cette entreprise. Donc il va mettre en péril l'entreprise de son meilleur ennemi, hein, mais il va tomber dans un engrenage assez terrible où la mafia va aussi le kidnapper pour qu'il commette des cambriolages, tout ça, enfin bon, bref. Et ça va donner un film assez étrange, hybride, plutôt bien troussé, une bonne série B, signé Lloyd Corrigan, qui est un réalisateur assez méconnu, hein. Et qui est une série B enjouée, au rythme assez enlevé, qui tient plus du thriller que du film d'épouvante. Hein, voilà. Même s'il y a, à un moment, c'est un peu le point commun à cette salve de films, au moins sur les trois premiers films dont je vais parler, encore une fois, une utilisation de l'électricité comme une sorte de super pouvoir qui est assez saisissante. On va continuer avec un film encore centré autour de l'électricité, L'échappée de la chaise électrique de George Wagner, un film de 41, avec Lionel Atwill en professeur fou, évidemment, en savant fou, comme d'hab, c'est le rôle de sa vie, et avec Lon Chaney Jr., grand copain de George Wagner, puisqu'ils ont fait le loup-garou ensemble aussi, où ils feront le loup-garou. En fait... le personnage de Lon Chaney Jr. est plutôt un type sympathique qui va survivre, avoir un accident grave, un bus va se cratcher et lui va être le seul survivant. Et c'est un bus qui s'est encastré dans un pylône électrique et lui va développer en fait une forte résistance au choc électrique. Il va être récupéré par un docteur, un savant fou, qui va décider, alors, au départ, de l'étudier de plus près, mais en fait, il va décider de l'exploiter. Le personnage joué par Lionel Atwood va décider de l'exploiter, en faire une sorte d'esclave, en le condamnant à mort, et en faisant une sorte d'homme électrique qu'il va envoyer tuer ses ennemis, tuer des hommes. Et surtout, c'est un savant fou, donc évidemment, il a des dessins noirs. Et surtout, il va transformer ce brave homme en créature tragique dans la grande tradition des monstres de la Universal. Et Lon Chaney Jr., contrairement à d'habitude, n'est pas trop mauvais. Le film se laisse regarder, c'est un film plutôt efficace et plutôt intéressant, que je vous conseille vivement, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, La Cité Pétrifiée, qui est un film tardif de la Universal, qui est un film de 57, qui est un film de John Sherwood, alors qui n'a pas vraiment d'acteur connu, mais qui est un film de John Sherwood, mais qui en fait à la base était un film de Jack Arnold, que Jack Arnold va commencer et ne va pas pouvoir continuer. Il va le préparer, il va pas pouvoir le continuer parce que pour des raisons de travail, il a trop de travail, il va être obligé de s'affairer à un autre film. Alors Jack Arnold, évidemment, le grand Jack Arnold, l'étrange créature du lac noir, entre autres, l'homme qui rétrécit, une balle signée X, enfin très très grand réalisateur de série B américaine. Et dans ce film, on sent vraiment son influence. Ça se passe dans une petite ville située dans le désert américain, et cette ville, elle est menacée par des pierres qui proviennent d'un météore, et ces pierres grandissent, se multiplient et pétrifient les humains au contact de l'eau. Voilà, d'où le titre La Cité Pétrifiée. Et évidemment, on sent bien qu'à la base, ce devait être un film de Jack Arnold, puisqu'on y retrouve une des thématiques majeures du cinéma de Jack Arnold, tout du moins quand il fait de la SF, c'est une foi incroyable dans la science. Pour résoudre toutes les problématiques, d'ailleurs pour résoudre les problématiques du film, on fait appel à la science. Il y a une petite gamine qui doit être sauvée parce que les deux personnages principaux, c'est un responsable du local qui s'occupe de l'environnement et sa copine qui est une institutrice. Voilà. Et à un moment, il y a une gamine qui est en train en voie de pétrification. Donc pour la sauver, ils ne doivent pas être très loin de Los Angeles. Ils vont à Los Angeles et puis ils font confiance au docteur pour la sauver. Et pendant ce temps-là, les pierres continue de progresser et d'avancer vers la ville et de devenir énorme. Et donc, lui, il va essayer aussi de trouver une solution donc scientifique pour arrêter cette progression. Ça rappelle évidemment, par exemple, tout le côté darwinien, tout le prologue de L'étrange créature du lac noir, où on explique bien que s'il y a des hommes sur Terre, c'est la théorie de l'évolution. Donc c'est plutôt intéressant, c'est pas un propos forcément partagé par tous les Américains, on le sait, même encore aujourd'hui. Et les effets visuels sont très très réussis. Et le réalisateur John Sherwood, c'est pas n'importe qui, c'est lui qui va faire le troisième épisode de la trilogie de L'étrange créature du lac noir, par exemple, qui est quand même un film fort sympathique. Donc c'est aussi lui qui assiste Arnold 2 ans plus tard sur Une balle signée X, dont je parlais tout à l'heure. Le film est vraiment un très bon film de SF, très prenant. On a du mal à décrocher. Et très franchement, je vous le conseille vivement. Pour moi, c'est le meilleur film de cette salle, mais c'est une super surprise parce que je m'attendais à m'éclater plus sur les Karloff, tout ça et tout, qui sont très bien. Mais celui-là est une vraie surprise avec le premier que je vous ai cité tout à l'heure, à savoir Le Rayon Invisible. Ce sont les deux très bon film de cette salve. Je vais rester chez Elephant Film et je vais passer la parole à Damien maintenant, qui va nous parler d'un film qui a fait les joies des amateurs de VHS, donc des vieux comme moi, même si lui est un jeune. C'est Le Commando des morts-vivants, Shockwaves, de Ken Wiederhorn, qui est sorti en 1977. You are now in the deep end of horror.
Shockwaves. Once they were almost human. Pour résumer le film, quelque part à l'est des Antilles, un petit bateau de croisière va s'échouer sur une île qui semble à première vue totalement désertée. Porté disparu, le capitaine est retrouvé victime d'une mort aussi atroce qu'inexplicable dans des circonstances manifestement destinées à inspirer la terreur aux naufragés. Dans l'île, les rescapés découvrent avec soulagement une somptueuse résidence style colonial qu'ils croient d'abord inhabitée, mais un photographe faisant retentir du Wagner dans les profondeurs de la jungle leur élève bientôt une présence et à travers un haut-parleur, une voix à l'accent germanique les interpelle. Immédiatement, dès le début du film, on pose une introduction historique qui annonce immédiatement des zombies nazis. Oui, la menace du film, c'est des zombies nazis, mais c'est pas n'importe quel zombie nazi. C'est les zombies nazis parfaits, c'est-à-dire c'est des zombies nazis, plongeurs ou grenouilles. Moi, j'appelle ça des grenouilles zombies nazis parce que je trouve que le terme renvoie immédiatement. Alors, on peut donner l'impression que je dénigre un peu le film, mais c'est pas du tout le cas. Hein, parce que après cette introduction, on se retrouve avec une rescapée et du coup, on se dit quand même qu'on va suivre comment un groupe de survivants est censé survivre face au groupe parfait de soldats nazis plongeurs. Et au fur et à mesure de l'histoire, il y a un truc qui marque ma rétine, mais de façon incroyable, c'est toute l'ambiance qui se crée à travers l'émergence hors de l'eau ou la plongée sous l'eau de justement cette menace, qui est accompagnée d'une musique lancinante et terrifiante qui participe énormément à l'atmosphère du film. Il crée toute une ambiance qu'il arrive à maintenir et c'est vraiment ces plans aquatiques qui sont d'une force incroyable. Bon, après, le combat est immédiatement disproportionné. Comme je le disais, l'ultime légion qui effraie toutes les autres unités militaires de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve face à un groupe de touristes bourgeois, on sait immédiatement à qui va profiter l'avantage du terrain. Au casting, on retrouve Peter Cushing qui joue un SS. Alors, vous le connaissez sans doute pour ses rôles dans Star Wars ou pour Frankenstein, mais personnellement, je le connais parce qu'il a joué le moins bon Doctor Who de tous les films Doctor Who. Et en survivante, il y a Brooke Adams qui joue un an avant dans L'invasion des profanateurs de tombes. Donc, les menaces un peu invisibles, elle connaît. C'est un film qui brille surtout par son atmosphère qui est incroyablement maîtrisée et qui a même eu une suite.
Effectivement, il y a Brooke Adams. Alors, Brooke Adams, elle a fait L'invasion des profanateurs de sépulture de Kaufman, mais elle va avoir un rôle très très marquant, c'est dans Les Moissons du Ciel de Malick. C'est la belle Brooke Adams va avoir une chouette carrière. Hein, voilà. Il y a aussi John Carradine, hein, la légende, qui fait le vieux capitaine du Rafio qui va s'échouer. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que c'est des nazis parfaits, mais ingérables. C'est pour ça qu'on les a mis sur l'île, en fait. Parce que, comme ils étaient ingérables, on les a foutus avec Peter Cushing sur l'île. On leur a dit, vous sortez plus de là, les gars, parce que tes nazis, là, ils tuent tout le monde. Ils sont ingérables, ils obéissent pas aux ordres, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un film d'ambiance, c'est un film fauché. Peter Cushing racontera à plusieurs reprises que Widerhorn, qui était vraiment au tout début de sa carrière, par moments, se faisait demander des conseils, il ne savait pas trop comment filmer telle scène, tout ça. Enfin, on sent que c'est un film fait un peu comme ça, à la débrouillardise. Mais je suis aussi d'accord avec toi, Damien. C'est un film qui a une atmosphère très particulière, une sorte d'atmosphère lancinante, comme ça, qui est un peu étrange et qui moi, me plaît bien. Il fera mieux, Widerhorn, avec les yeux de l'étranger, Eyes of a Stranger, en 80. Une sorte de slasher vraiment chouette. Moi, je voulais parler d'un téléfilm qui est sorti aussi chez Elephant Film, c'est L'Enterré Vive, de Jack Smith. Jack Smith, réalisateur un peu oublié, Jack Smith, réalisateur sympathique, hein, aussi, hein, entre autres de la bataille de Midway ou de 747 en péril. Et là, il adapte Ray Bradbury c'est un téléfilm avec Olivia de Havilland qui interprète Laura Wynant, qui sort d'un séjour en HPR, qui est une femme très riche, et on découvre que sa belle-fille aimerait bien mettre la main sur la fortune de sa belle-fille, qui est absolument infecte. Et c'est une vieille femme qui n'est pas folle, mais qui est un petit peu fatiguée psychologiquement, et puis qui parfois fait un peu de démence sénile, mais qui n'est pas folle du tout, qui a sa tête sur les épaules. Et un jour, qu'elle se promène dans son domaine, donc son domaine donc, sur lequel il y a également donc, son fils et sa belle-fille, elle entend des voix. Et ces voix, en fait, c'est une femme qui est enterrée dans son propre terrain, mais qui n'est pas morte, qui est enterrée vive. Et donc, on la prend pour folle, elle doit essayer de persuader tout le monde que, en 1h14, parce que le film est très court, hein, elle doit essayer de persuader tout le monde que, il faut sauver cette femme. Cette femme qui est la victime d'un féminicide, hein, d'un mari infect qui a une maîtresse et qu'on découvre très vite, on sait très vite que c'est lui le coupable. Hein, voilà. Va-t-elle arriver à ses fins ? Va-t-elle réussir à sauver cette femme dans ce téléfilm à suspense, plutôt bien troussé. Et dans les bonus, d'ailleurs, on apprend quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. C'est que Olivia de Havilland, elle est morte, c'est la star de Autant en emporte le vent. Elle est morte en 2020 quand même, à 104 ans. Hein. Et elle a été la voisine de Jean-Pierre Dionnet. Ils ont habité au même... Même elle habitait au-dessus de chez lui. Et c'était une horreur. Il raconte, il présente le film, et il raconte sa vie un peu, il raconte ça. Et c'était une horreur. Elle marchait, mais il l'aimait bien quand même. Et elle marchait en talons tout le temps au-dessus de chez lui. Et elle supportait pas qu'il y ait du bruit chez lui, même si la journée il recevait des amis, elle faisait arrêter le bruit tout de suite. Voilà. Et puis une fois, il a donc pour essayer de l'amadouer, il lui a fait livrer des fleurs. Et puis le lendemain, il a retrouvé les fleurs devant sa porte. On n'avait rien à foutre, en fait. Voilà. Donc c'est assez drôle, il raconte ça. C'est totalement anecdotique, ça n'a strictement rien à voir avec le film, mais c'est assez marrant. Et donc le film, pour moi, il est assez efficace. Olivia de Havilland est vraiment très bien dans le film. Et moi, ça fait partie de ces téléfilms, à l'époque, qui étaient bien troussés pour la télé américaine. Ces téléfilms à suspense très efficaces, dans une ambiance un peu au-delà du réel, quatrième dimension. Un bon téléfilm bien troussé que je vous conseille vivement. On va enchaîner avec un autre film sorti chez Elephant Film qui décidément font très très fort. Massacre au dortoir. Aussi un massacre dans un dortoir, évidemment. Je vais passer ça à mon ami Thomas, parce que Thomas, il aime les films fauchés, les films d'étudiants qui se passent dans des dortoirs et où il y a des massacres. Donc de Jeffrey Obro et Stephen Carpenter, deux petits maîtres de la série B fauchée américaine.
Nous sommes donc dans un dortoir qui va fermer pour les vacances. Et puis, il y a un groupe d'étudiants là, qui s'occupe de ranger tout ça avant de pouvoir partir tranquille en vacances, etc. Mais bon, seulement, ça se passe pas comme il faut parce qu'il y a un mec parmi eux. On ne sait pas qui c'est. Enfin, on nous balance une fausse piste, mais bon, c'est marqué. Il y a un panneau fausse piste un peu dessus. Il y a un mec qui trucide petit à petit cette bande de copains. Bon, c'est un film qui est connu, aussi connu sous le titre de Pranks. Et c'est un film qui a fait partie de ces fameuses vidéos censurées en Angleterre dans les années 70-80 et qui étaient appelées les vidéos nasties. Et donc là, il ressort en Blu-ray. Bon, honnêtement, c'est pas un super slasher. Hein. C'est pas un très bon film. On sent qu'ils veulent copier Carpenter. Hein. Steven Carpenter veut copier John. Avec l'utilisation abusive d'une caméra subjective. Il y a au moins un moment de suspense sur un matelas éventré. Bon, je me demande encore à quoi sert ce plan. Et on voit que c'est un film fauché, que c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien joué. Il y a plein de scènes qui ne servent à rien, des personnages qui apparaissent comme ça, on se demande qui c'est. Il y a un mec qui est au lit avec une nana, il se lève, il téléphone à une nana, et puis il dit bah je viens te voir, puis il met je sais pas combien de temps pour venir voir la nana, tu vois, genre 2 jours quoi. Il devait vraiment habiter très loin. Et en fait, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, s'il y a des meurtres, mais c'est vraiment mal foutu. Les dialogues, ils sont un peu insipides. C'est pas très bien filmé, c'est pas très bien monté. Donc, c'est pas un très bon slasher, en fait. Hein.
Déjà, je te trouve très sévère, parce que pour un petit film d'étudiant fauché, je trouve que c'est un film qui tient bien la route, avec une vraie ambiance malsaine, quand même. C'est un film vraiment malsain, un peu glauque, un peu poisseux. Je trouve que c'est vraiment un film, avec... En plus, il y a une bonne musique de Christopher Young, je trouve, d'un certain Christopher Young, quand même, qui plus tard, fera les beaux jours du cinéma d'horreur, hein, avec Hellraiser 2, La Revanche de Freddy, Et puis, surtout... Moi, je trouve que les meurtres sont quand même assez gore. Je trouve que les acteurs, bon, c'est très inégal évidemment, puisque c'est des acteurs amateurs. Hein, c'est une bande de potes. On sent qu'ils essayent de faire que le film dure 1h30, quoi. Voilà, on sent qu'ils rallongent un peu la sauce. Et puis j'aime bien le final. Je trouve que le final est très étrange. je peux pas le raconter là. Il est très surprenant. Il remet en cause en plus la règle de la Final Girl, quoi. Donc, il est très surprenant. Et en cela, il est quand même original. Voilà. Et moi, je suis beaucoup moins sévère que toi. Je trouve que c'est un film malaisant, plutôt intéressant, mais évidemment, il a plein de défauts parce qu'il est fauché. C'est un petit film et tout ça, mais c'est un film qui jouit quand même dans certains cultes. Et puis après, avec The Kindred et The Power et tout, bon, ils feront bien mieux, les deux loustiques. Toujours des films fauchés, mais ils feront bien mieux. Ils feront des petites séries B plutôt sympathiques avant de disparaître un peu, voilà. Mais moi, je trouve que c'est un film intéressant. Je vais changer d'éditeur, je vais aller chez ESC, parce que ESC a sorti aussi un peu du slasher, là. Mais avant d'arriver sur notre genre de prédilection, en tout cas aujourd'hui, hein, je vais vous parler de deux films sortis chez ESC qui sont deux films de Vernon Sewell. Vernon Sewell, qui est un réalisateur anglais qui travaillait pour la Tygon, et qui est une des sociétés qui aurait bien voulu avoir le succès de la Hammer Film, hein, voilà, qui était un peu dans le sillon de la Hammer Film. Et Vernon Sewell, c'est un peu le porte-étendard, c'est un peu le réalisateur maison qui a un peu cartonné. Et on sort deux films des années 60 qui sont le Vampire à soif et La Maison ensorcelée. Alors le Vampire à soif, c'est un film qui met en présence deux figures, de deux classiques du cinéma d'épouvante, hein. Bon, alors Peter Cushing, je ne peux pas dire dans tous les films dans lesquels il a joué, hein, dont Le Commando des Morts-Vivants, donc Damien. Voilà, tous les films de la Hammer et tout ça, qui interprète là l'inspecteur Quenelle, d'ailleurs, hein, si on le lit, ça s'écrit Q-U-E-U-N-E-2-L, évidemment, ça ne se prononce pas comme ça à l'anglaise. Et puis, il est confronté au docteur Karl Manninger, qui est interprété par Robert Fleming, c'est-à-dire le professeur Hitchcock des films de Ricardo Freda, voilà. Donc, qui d'ailleurs est, une fois de plus, une sorte de savant fou. Bon, là, il a une raison quand même, hein. Il a une raison. Et donc, il y a des meurtres inexpliqués qui se passent dans la campagne anglaise. Et évidemment, c'est Peter Cushing qui enquête. Et au même moment, bon, Peter Cushing, il est un peu étonné parce que ce sont des corps lacérés et vidés de leur sang. Comme s'ils avaient été attaqués par une créature étrange. Bon. Une sorte d'oiseau géant, voilà, on ne sait pas trop. Et d'oiseau géant qui serait une sorte de chauve-souris géante, voilà, ce genre de truc. Donc, on va découvrir évidemment... que cette créature existe, que ce savant fou n'en est pas évidemment, n'y est pas étranger, et que même, il est en train de recréer un partenaire à cette créature pour que se sente moins seul. Bon, je sais, c'est un peu étrange comme postulat. Et bon, c'est comme ça. Ça donne un film, ma foi, fort sympathique. Hein. C'est ce qu'a donné de mieux la Tygon Pictures avec... les films de Michael Reeves, surtout Le Grand Inquisiteur, et puis aussi La Chair du Diable, qui est pas mal. Le Vampire à soif, ça reste un film assez sympathique, avec un Peter Cushing qui est excellent en flic anglais, très flegmatique, voilà, avec un film en plus qui est où il y a plein de jolies jeunes femmes comme ça, dont Wanda Ventham qui interprète donc Clara Mallinger, la fille qui interprète la fille du professeur Karl Mallinger, qui a un rôle important dans ce film, qui est un petit film, hein, qui est un film qui est un film un peu gothique, un peu étrange. La créature vaut le détour, hein. Sorte de gros papillon là dans un cocon là avec des yeux rouges là, enfin c'est daté, hein. Les effets spéciaux sont datés, mais la créature vaut le détour. Et le film est fait avec un sérieux imperturbable qui lui confère un aspect vraiment à part. Et que j'aime beaucoup ce genre de petit film. Je passe un bon moment, c'est dans la collection British Horror, évidemment, hein. Et par contre, je suis moins enthousiaste sur La Maison ensorcelée. Et pourtant, le film a un casting de rêve, hein, puisque Boris Karloff, Christopher Lee, Barbara Steele, Michael Goof, c'est vraiment le film qui a fait rêver tout le monde. Bah, je crois que beaucoup d'amateurs de fantastique sont de toute façon un peu tombés des nues quand ils ont vu le film, hein, où en fait l'apparition de Barbara Steele est surtout une apparition onirique. Hein, dans des sabbats, elle est Lavinia Morley, hein, qui dirige des messes noires en fait, et qui apparaît qui apparaît dans des séquences oniriques. L'histoire, c'est simple, c'est un acteur transparent, Mark Eden, hein, qui interprète Robert Manning, qui est un antiquaire et qui part à la recherche de son frère disparu dans une ville où il y a eu autrefois des procès donc en sorcellerie. Et notamment le procès de Lavinia Morley, donc Barbara Steele, hein, il y a 300 ans de cela. Et il sait que, selon une lettre de son frère, hein, qu'il devait investiguer au manoir Morley. Donc il s'y rend, évidemment. Il rencontre le maître des lieux, Christopher Lee, évidemment. Et évidemment, la nièce de ce dernier. Et puis aussi, un professeur, le professeur John Marsh, interprété par Boris Karloff. C'est un de ses derniers films. D'ailleurs, le pauvre, il tient presque plus debout. Il joue avec une canne. Enfin bon, parfois, il est en fauteuil roulant. Et qui, au départ, va lui paraître peu sympathique, mais qui va beaucoup l'aider dans sa quête pour retrouver... son frère, ou tout du moins ce qui est arrivé à son frère. Ces fameuses scènes très psychédéliques, vertes, rouges, bleues, avec des teintes complètement délirantes, où on voit ces fameuses messes noires à base de bourreaux en slip en cuir. Voilà, c'est assez drôle. Et il y a la très belle Barbara Steele qui trône au milieu, comme ça, de tout ce monde. Et lors de ces scènes de messes noires, qui sont quand même, qui valent leur pesant de cacahuètes. Hein, voilà. Après, le film a beaucoup de charme. C'est un film gothique, c'est un film tourné dans des beaux décors, c'est un film avec une très belle photographie. Et alors, c'est vraiment ces deux films de Vernon Sewell sont importants parce qu'ils montrent vraiment. Alors, celui-là est vaguement inspiré de Lovecraft, hein, mais je dis très vaguement. Hein, voilà, il est vaguement inspiré de Lovecraft, comme beaucoup de films d'ailleurs. Mais il montre vraiment ce qu'a été la richesse du cinéma anglais, sa vitalité à une époque où la Hammer a entraîné quand même des sous-boîtes, la Amicus, la Tygon, et qui essayait de singer la Hammer, mais il n'y a qu'une Hammer, c'est la Hammer, voilà. Donc, comme témoignage d'une époque, ces films sont indispensables pour les fantasticophiles complétistes. Et puis, on va rester chez ESC pour un autre film qui va rejoindre un genre donc, que l'on aime bien, avec une musique de Christopher Young, d'ailleurs, une très bonne musique de Christopher Young, qui est un film de Jamie Blanks, un réalisateur sous-estimé, un réalisateur australien, et qui est un film avec Jared Leto, quand même, hein, qui est à l'époque un tout jeune acteur. Et ce film s'appelle Urban Legend. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial fantastique et horreur.
Urban Legend, qui est réalisé par le cinéaste australien Jamie Blanks, qui nous avait habitué à des films un petit peu plus durs, comme Storm Warning, hein, qui se passe entre un slasher et un film de redneck assez violent et assez gore. Et donc là, Urban Legend, c'est plutôt une production américaine, et on sent que c'est une production américaine. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui voit s'accumuler des morts autour d'elle, dans des mises en scène déclinées selon différentes légendes légendes urbaines, notamment la scène d'ouverture. C'est une jeune femme qui se retrouve en panne d'essence, enfin avec son réservoir quasiment vide sur l'autoroute. Elle s'arrête à une station essence pour faire le plein. Et là, elle tombe sur Brad Dourif. Alors évidemment, quand on tombe sur Brad Dourif, on flippe. Hein. En plus, il est bègue. Alors c'est encore plus effrayant. Brad Dourif bègue. Et Brad Dourif l'enlève de la cabine de la voiture et l'enferme dans la station essence. Alors elle se défend, bien sûr. C'est Brad Dourif. On a peur. Elle se défend. Et donc, elle s'enfuit finalement avec sa voiture, malgré que le réservoir soit à plat. Et en fait, il y a quelqu'un sur la banquette arrière. Il voulait la prévenir qu'il y avait quelqu'un sur la banquette arrière avec une hache. Et puis, bien sûr, elle se fait décapiter. Mais par contre, apparemment, la voiture ne fait pas de sortie de route. Ça, c'est la première invraisemblance du film. Enfin bref, mais on s'en fout un peu. Et donc, les différents meurtres sont donc déclinés de différentes légendes urbaines. Hein. On a droit à un petit cours par Robert Englund sur les légendes urbaines, etc., avec démonstration à l'appui comme quoi c'est faux. Et évidemment, dans le film, le tueur va nous montrer que, bah non, en fait, c'est vrai. Et c'est un film plutôt bien soutenu. Moi, je trouve que Jamie Blanc, c'est un bon réalisateur. Hein. Je trouve qu'il a vraiment une patte. Son film, il est vraiment bien foutu. Il n'y a pas de temps mort. Ça s'enchaîne vraiment vite. Bon, après... Je sais que toi, Gégé, tu trouves que c'est pas très gore, mais je pense que c'est dû à la production américaine. Parce que c'est vrai qu'il y a une large différence avec son film précédent, La Storm Warning, que j'aime beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est dans les slashers, c'est le haut du panier.
Alors, c'est un film réputé pour être gore quand même. Moi, je trouve pas si... En fait, j'en avais un souvenir, un très bon souvenir. Et puis, à La Revoyeur, je l'ai trouvé un peu light. C'est-à-dire que les scènes érotiques qui sont un peu indispensables à tout bon slasher sont plutôt absentes ou alors très prudes. Les meurtres vont pas au bout, je trouve. Bon, voilà, on a connu plus gore que ça. Après, par contre, le film a des qualités. Attention, il a aussi des qualités. Très belles photos, un final gothique. Les acteurs sont tous très bons, les actrices, les acteurs sont tous très bons. Alicia Witt en Tara Reid fait du Tara Reid, hein, voilà, elle joue sur sa plastique de blonde atomique ou de bombe atomique, on dit comme on veut, parce qu'elle est la caricature de la blonde pulpeuse. Alicia Witt est un personnage par contre super bien écrit, très intéressant de Final Girl qui n'est pas une Final Girl vierge de tout reproche. C'est ça qui est intéressant et qui est un personnage fort et pas du tout effacé comme souvent les Final Girls dans les slashers. Et Rebecca Gayheart est excellente aussi, je trouve. Par contre, je trouve que le tueur, c'est un peu étrange parce que le tueur, en fait, il accomplit une mission, il accomplit une vengeance. Mais en fait, il tue plein de gens qui n'ont rien à voir avec cette vengeance. Donc on peut se poser la question, mais en même temps, bon, bah, c'est le côté fun de foutraque du film, quoi.
Oui, mais bon, sinon, il n'y aura pas de film. Après, voilà. Tu dis que c'est pas gore, mais tu te plains qu'il y a trop de morts qui n'ont rien à voir avec. Ouais. Bon, on s'en fout. Le film est plein d'invraisemblances, de toute façon. Ah, oui. Mais moi, je trouve que le film l'est bien réalisé. Il y a une véritable esthétique gothique tout le long du film, notamment lors de cette scène de meurtre sous des arbres. Puis même la façon dont il utilise le campus, etc. Je trouve que c'est vraiment un bon film gothique. Et la première fois que j'avais vu, j'avais pas super apprécié. La deuxième fois, j'avais vraiment beaucoup plus apprécié. Et en réévaluant le film bien à la hausse, et pour moi, c'est vraiment le haut du panier du slasher, quoi.
Comme tu le dis, Thomas, il a des qualités au niveau de la réalisation qu'on ne peut pas lui retirer. Mais c'est vraiment le scénario. Il a un bon rythme, mais le scénario mise un peu trop sur certains effets, je trouve. Des jumpscares qui n'ont rien à voir, en fait qui vont à contresens de l'histoire. Il y a un moment où ils arrivent devant un manoir, ils entendent un bruit, du coup ils se rapprochent de la porte pour voir d'où sort le bruit, et en fait c'est un de leurs potes qui était derrière eux qui faisait le bruit. Et là tu sais que tu te retrouves dans une situation où toute cette scène est censée créer de la tension, ce qui fonctionne, mais dont au final la réponse va à l'encontre même de toute la mise en scène qu'il y a autour. Et c'est ces défauts-là que je reprocherais certains gros fils. Mais en dépit de cela, je pense que c'est un excellent reflet de son époque, de finalement ces films d'horreur et de slasher qui sont sortis entre 1995 et 2005. On va prendre une petite décennie comme ça. Je trouve qu'ils représentent bien finalement la variété qu'on pouvait avoir à cette époque avec leurs qualités et leurs défauts.
Alors, autre film de cette époque, enfin un peu avant, en 92, film signé d'un Anglais, Bernard Rose, qui sort également chez ESC. Et pour moi, bon, là, c'est un grand film. En plus, moi, j'avais eu la chance de pouvoir interviewer Bernard Rose, à savoir Candyman. Donc, Candyman de Bernard Rose, qui ressort dans une très belle édition en Blu-ray chez ESC. Qu'est-ce que ça raconte, Candyman? Bah, je crois qu'on connaît tous un peu l'histoire. Il ne faut pas prononcer 5 fois Candyman devant une glace. Sinon on réveille ce monsieur Robitaille qui fut autrefois, qui représente en fait toutes les souffrances du peuple noir et toute la maltraitance vécue par le peuple noir, qui était un artiste et qui autrefois a été, particulièrement maltraité pour avoir osé tomber amoureux d'une blanche. Et puis c'était un amour réciproque, visiblement, donc il a été tué sauvagement. Et en particulier aussi, on lui a injecté à l'intérieur de son corps des abeilles, un nid d'abeilles, enfin bon bref, un truc vraiment, un essaim d'abeilles. Enfin bref, vraiment une mort dégoûtante. Voilà. Et il se trouve que il a donc donné lieu à une légende urbaine qui dit que si on prononce son nom 5 fois devant une glace, il va apparaître. Et après, il est colère et puis il fait des dégâts. Hein, voilà, parce qu'il a, on lui a coupé la main quand on l'a tué, puis on lui a mis un crochet à la place. Évidemment, du coup, il utilise ce crochet, non pas pour aider les bouchers à accrocher de la viande dans leur boutique, hein, mais plutôt pour transformer en charpie les êtres qui osent prononcer son nom devant une glace. Et Helen Lyle, qui est, une intellectuelle, une universitaire, va étudier cette légende urbaine de Candyman et il va se nouer une étrange relation entre elle et le Candyman. Je précise qu'Helen Lyle, c'est Virginia Madsen, qui trouve certainement là, avec Hotspot de Dennis Hopper, son meilleur rôle. Elle est fantastique dans ce film. Et évidemment, elle va de fait se retrouver elle-même. Elle va être la marionnette de Candyman. Et elle va se retrouver au centre du coup d'une nouvelle légende urbaine, d'ailleurs, qui ouvre le film de 2021 signé Nia DaCosta, puisque le film de 2021 part du principe qu'on raconte non pas la légende du Candyman, mais on raconte la légende de Helen Lyle, voilà, qui a sauvé une enfant du bûcher. On découvrira qui est cet enfant du bûcher dans la version de 2021. Film de Bernard Rose. Je vous disais, Bernard Rose, qui est un artiste que j'adore, j'avais pu longuement interviewer dans une émission il y a longtemps de ça, lors de la sortie de son Frankenstein très punk. Pour moi, très grand film, adapté de Clive Barker, qui est un film très poétique, très social, avec une mise en scène très élégante. On parlait à l'instant d'Urban Legend. Un tout petit exemple, dans Urban Legend, il y a une scène où Robert Englund, effectivement, raconte des légendes urbaines. Et en fait, il y a la même scène dans Candyman, mais incroyablement mise en scène. C'est tout à fait autre chose. En fait, il y a Virginia Madsen qui se promène entre deux bâtiments de la faculté et on entend son mari, en fait, faire un cours sur les légendes urbaines aussi. Et sauf que là, ça sert de raccord son. C'est assez brillant, je trouve, en termes de mise en scène. Et puis, on retrouve tout ça, cet étrange mélange dès le générique, ce côté très oppressif de la ville, le côté très géométrique de la mise en scène, utilisé par Bernard Rose, qui va dévier petit à petit vers un univers extrêmement poétique et qui, pour moi, fait de ce film un film unique. Et quand j'ai revu les deux à la suite, celui-ci et le Nia DaCosta, j'ai été sidéré. À chaque fois que je vois ce film, je le trouve meilleur que la fois précédente, en fait. Je suis sidéré. Ce film, pour moi, est un très grand film fantastique des années 90. Vraiment un très grand film.
Moi, j'aime beaucoup le film. Je trouve que la première heure du film était assez extraordinaire. Quand le Candyman n'est qu'une légende, en fait, n'est qu'une légende et n'est qu'une ombre, une apparition, et aussi pour Helen Lyle, en fait, semble être effectivement qu'une apparition, qu'un effet de son imagination. Là, je trouve le film extrêmement brillant pendant une heure. Après, quand il devient plus concret, j'aime moins. Je trouve que déjà, bien avant le film produit par Jordan Peele, le film déjà parlait de la gentrification et aussi parlait de la culpabilité qu'on peut, par rapport à l'esclavage aux États-Unis.
Et ce personnage, incarné par Virginia Madsen, incarne bien cette culpabilité.
Bah écoute, mon cher Thomas, on va s'arrêter là pour Candyman, parce qu'on aurait tant de choses à dire. On aurait aussi envie de défendre le remake de Nia DaCosta, qu'on trouve très bon. On trouve deux films différents, mais en même temps très complémentaires, qui est plus une sorte de suite, d'ailleurs, le film de Nia DaCosta. Et qui, si le film, pour moi, de Bernard Rose est l'un des meilleurs films d'horreur des années 90... Celui de Nia DaCosta est l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années pour moi. Donc les deux, pour moi, sont deux excellents films qui alors ils sont différents. Celui de Nia DaCosta joue sur le hors-champ, comme celui de Bernard Rose aussi, mais il est moins poétique, par exemple. Mais il a aussi une construction géographique des plans, géométrique des plans et tout, qui est très, très ambitieuse et très impressionnante. Et puis un discours aussi très politique, comme le premier, sur la gentrification, très intéressant, puisque ce n'est non pas un film qui analyse le phénomène de la gentrification uniquement sous le prisme de la race, comme on dit maintenant, même si j'aime pas ce mot, mais qu'il analyse sous le prisme de la classe sociale. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on va terminer cette émission avec un film sorti chez Rimini, un film australien de Brian Trenchard-Smith, un film avec Steve Railsback, dont je rappelle que le sosie officiel est notre ami Dominique Legrand, que l'on salue, et la belle Olivia Hussey, un film produit par David Hemmings, un film dont le pitch est très simple. Tous les opposants ou les gens qui sont un peu soupçonnés de ne pas être trop d'accord avec le pouvoir en place dans un monde dystopique sont envoyés dans un camp de rééducation. Et là, nos héros finissent carrément en gibier pour une chasse digne des chasses du comte Zaroff, menée par le directeur de la prison et des amis à lui, dont une bête tout droit échappée, on dirait le fauve dans les X-Men, tout droit échappée de l'île du docteur Moreau. Et puis une incroyable Amazone perfide qui adore, elle est très sadique et elle adore tuer les gens avec son arc à flèche explosive. Et tout ce petit monde-là se retrouve embarqué dans cette film qui devait être un film énorme avec un gros budget et qui a vu son budget raboté, un producteur partir. On le découvre dans les bonus passionnants qu'il y a dans cette édition éditée par Rimini. Et on découvre qu'à ce moment-là, c'est posé un cas de conscience pour Brian Trenchard-Smith. Soit il réalisait le film, mais en enlevant des dizaines de pages de scénario et en tournant deux semaines de moins, je crois. Soit il réalisait pas le film. Il a choisi du coup de réaliser le film pour pas mettre au chômage toute son équipe. Et ça donne un film assez étrange, un film complètement barré, complètement autre. On voit bien que c'était sorti pour être plus ambitieux. Et en fin de compte, ça fait un produit bis. Et moi, j'adore le cinéma bis. C'est pas péjoratif dans ma bouche. Ça fait un produit bis. Ça fait un film presque psychotronique, un film complètement barré, que je vous conseille vivement, où à la fois il va y avoir des scènes de douche sorties des whips, tout droit d'un whip. Il va y avoir des scènes bien gore, des scènes bien dégueulasses, avec des torses coupés en deux, tout ça. Enfin, il va y avoir un mélange de choses, une pointe d'érotisme aussi, une pointe de sadisme. Enfin, vraiment, Thomas, un film hors norme.
Oui, comme tu le dis, un film entre le remake des Chasses du comte Zaroff et le film de prison. Et un film aussi qui est quand même particulièrement sadique. Je trouve qu'il malmène beaucoup ses personnages principaux. C'est un film qui est quand même assez, on peut dire, assez cruel.
Un film donc cruel, comme on les aime dans Culture Prohibée, et qui est disponible chez Rimini. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.